Bienvenue dans « Je tiens absolument à cette virgule », podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général.
Dans le ciel qu'on voit, doucement teinte, un oiseau sur l'arbre qu'on voit, chante sa plainte.
Je reçois aujourd'hui Judith Viard, qui a publié trois recueils de textes courts que l'on pourrait qualifier d'instantanés ou de petites vignettes littéraires, ou encore un livre de nouvelles écrit à quatre mains avec Frédéric Oudard, et qui vient de faire paraître son dernier ouvrage en 2023 chez Louise Bottu, intitulé « Pas d'équerre », qui revient sur ses années d'expérience en tant que professeur de lettres au lycée technique.
Que voilà pleurant sans cesse. Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà de ta jeunesse.
Pour enrichir cette émission, vous entendrez des extraits de l'œuvre lue par Anouchka Krégar.
Un matin, dans la glace, on découvre sa vraie gueule. Il faut alors se rendre à l'évidence, les gueules d'avant ce jour n'étaient que des ersatz, des essais. Celle-ci, qu'elle nous plaise ou non, est l'authentique. Et ce n'est généralement pas la tête de 20 ans, trop jolie, trop homogène, trop nette, en tout cas pas assez expressive pour figurer le visage officiel. Non, notre juste tête nous apparaît généralement après 40 ans. Parfois un peu plus tôt, mais c'est rare. Voyez, Brad Pitt, par exemple, a trouvé son véritable visage après 50 ans. Il était temps. Avant cela, la contemplation de ses traits symétriques, lisses, réguliers et monotones, provoquait chez le spectateur bâillements et ennuis profonds. C'est parce que les angles accidentés, le poil blanc, les rides, les poches sous les yeux, le regard qui a vu, révèlent l'essence originale de l'être, sa complétude enfin atteinte. Ensuite, bien sûr, tout se délite très vite. La vraie gueule, et avec elle les convictions, les certitudes, les résistances inutiles. Et le crâne hilar est bientôt recouvert de mousse végétale.
Quand avez-vous commencé à écrire ?
J'ai écrit très tôt. C'est une activité solitaire dans ma chambre d'enfant et j'écrivais des petits textes, des textes en prose, de la poésie. J'ai été très productive à l'adolescence. J'ai écrit un petit peu moins à l'âge de 20 ans, j'ai repris à 30 ans, j'ai rempli des carnets.
Plutôt à chaque fois dans des formes courtes alors ?
Oui, plutôt dans des formes courtes. J'ai écrit, je suis en train d'écrire un roman. À quatre mains avec Frédéric Oudard. Nous avons écrit un roman qui est chez les éditeurs en ce moment, un roman à quatre mains. J'ai un roman moi-même en cours, hein. Donc la forme longue, je la pratique aussi. Mais c'est vrai que la forme courte, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que on se balade avec un carnet, un crayon, et on écrit n'importe où, dans le métro. Quand on a une vie très très active, bon, moi je suis sur deux établissements, un lycée professionnel et une université, donc ça me remplit bien mon emploi du temps. Et les formes très courtes, elles s'écrivent comme ça, en des parenthèses, hein, dans des petits sas de liberté. Écrire long, c'est une autre entreprise, et ça trouve sa place aussi dans mon emploi du temps, mais c'est vrai que la forme courte, elle est intéressante pour ça, qu'elle peut se faufiler un peu partout.
Donc c'est plutôt jusque-là des instantanés.
Oui, j'ai écrit beaucoup d'instantanés. Mes premiers recueils, c'est ça en fait, hein, j'avais beaucoup d'instantanés, beaucoup de textes qui étaient en vrac dans des dossiers sur mon ordinateur, hein, et qui ont pu donner naissance après à des recueils. Je n'en avais pas conscience au départ, c'est-à-dire que je n'ai pas conçu de recueil à un moment en me disant il faut que je fasse un recueil, c'est en classifiant mes textes sur mon blog littéraire, en les relisant et en envoyant le fil rouge, les fils conducteurs que j'ai vus et émerger des recueils.
Vous publiez aussi de courts textes sur Facebook. Est-ce que ce sont des textes qui peuvent ensuite se retrouver dans un recueil ?
Quelques-uns se sont retrouvés dans un recueil. Alors, les textes que je publie sur Facebook, en parallèle, ils vont sur mon blog littéraire. Donc parfois, ils apparaissent, en fait, quand je les mets sur Facebook, en fait, il y a le lien pour les retrouver sur mon blog d'écriture. Puis, parfois, certains de ces textes se retrouvent, en effet, dans des recueils.
Comment utilisez-vous votre blog littéraire ? Est-ce que c'est un atelier d'expérimentation, un endroit où où vous conservez vos brouillons, ou est-ce que ce sont déjà des formes finies, ou est-ce que c'est des textes que vous retravaillez ensuite ?
Vous avez parlé de laboratoire d'expérimentation, c'est ça ?
Oui,
j'aime bien cette expression, parce que c'est ça, en fait. Alors, j'ai des textes qui sont parfois d'abord écrits dans des carnets, au crayon, et puis qui reprennent forme sur le blog. Le blog, il m'a servi au départ d'endroit pour archiver mes textes, parce que, en fait, j'en avais un peu partout, et j'ai commencé à faire des catégories, parce qu'il y a plusieurs territoires d'écriture qui se sont profilés, que j'ai repérés, des catégorisations. Et parfois, en effet, il y a des textes qui ne sont pas publiés sur mon blog, qui sont à l'état de brouillon sur le blog, mais vous savez, je ne les fais pas apparaître. D'autres que je retravaille au fur et à mesure, que je retrouve et que j'ai envie de retravailler, puis d'autres qui sont en l'état et qui ne bougent pas. En revanche, quand ils vont être introduits dans un recueil, intégrés à un recueil, je les fais disparaître de mon blog, en fait.
Et quelles sont ces différentes catégories d'écriture ?
Quand je parle de catégories, c'est vraiment des territoires d'écriture. Donc, quand je parle de territoire, c'est... Par exemple, j'avais un dossier école pour pas d'équerre. École, un dossier enfance-adolescence, et après j'avais des dossiers plutôt thématiques en fait, hein, ce sont des intitulés. Et à l'intérieur de ces dossiers, il y a de la prose, il y a de la poésie, il y a des nouvelles, il y a des textes plus longs, tout est mélangé. Mais ce sont plutôt des catégories thématiques.
Vous variez souvent les pronoms entre les différents textes de votre livre, les gens ne s'en rendent pas compte. Parfois, vous utilisez le tutoiement, d'autres fois le vouvoiement, ou encore l'écriture à la première personne. À quoi correspondent ces variations ?
Alors, si je peux revenir sur le jour où la dernière Claudette est morte, que j'ai publié avant, les gens ne se rendent pas compte, en fait, c'était un jeu, J.E., très autobiographique. Hein. Donc là, c'était un jeu assez identifié à ma personne. Dans les gens ne se rendent pas compte, le jeu... C'est un jeu nous. Non, c'est pas un jeu de mots hein, que je suis en train de faire pour les auditeurs. C'est un jeu tiré nous, N-O-U-S en fait. Hein. C'est un jeu plus universel qui englobe en fait les autres. Et puis quand je dis tu, en fait c'est un recueil qui est dédié à mon fils Léopold, que je salue ici. Je pense qu'il écoutera pas du tout l'émission, ça va pas l'intéresser. Mais on ne sait jamais. Voilà, je lui ai dédié ce recueil, les gens ne se rendent pas compte. Et donc, parfois, dans le « tu », je pensais à lui, en fait. Voilà. Alors, il y a peut-être du « vous » aussi, en effet, hein, si vous le dites. Mais voilà, en tout cas, pour le « je » et le « tu », c'est ça.
On peut trouver dans ce même livre certaines phrases assertives, comme page 53, « On marche à reculons en s'étonnant que l'horizon se dérobe à chaque pas ». Essayez-vous, à travers l'écriture, de dégager certaines vérités ?
Ce que j'aime en littérature, notamment, pas seulement évidemment, mais notamment, ce sont les moralistes. J'aime beaucoup La Fontaine, Nicolas de Chamfort, Madame du Deffand. J'aime ces écritures-là, ces aphorismes, La Rochefoucauld. Les moralistes, en fait, ils donnent à voir le monde tel qu'ils perçoivent, et ils donnent à voir les travers, les mœurs humaines. Donc... Je pense que c'est des vérités comme ça, mes perceptions du monde. Mais bon, je fais attention avec le mot de vérité, en fait. Mais voilà, après, je pense qu'on peut sentir un positionnement par rapport au monde que je mets en écriture. Je donne à voir ce que je vois, enfin, ce que j'en perçois. Et
vous voyez-vous, justement, écrire des aphorismes vous-même ?
Ah, mais moi, je trouve que c'est vraiment la forme ultime, j'adore lire les aphorismes, moi. Et c'est difficile. Moi, ce que j'adorerais vraiment savoir écrire avec talent, ce sont des aphorismes. J'en écris quelques-uns, mais bon, c'est... Voilà, C'est rare quand ça, enfin, c'est des fulgurances et en même temps c'est un langage très précieux et très précis. Et donc vraiment ça, j'adore cette précision. Et j'adorais savoir écrire des chansons. Une chanson qu'on retient, que les gens chantent, une chanson populaire, une chanson d'amour, quelque chose qu'on retient comme ça. La chanson, en fait, ça arrive instantanément à nous, et puis c'est aussi un fil entre les gens, parce qu'on connaît tous les mêmes chansons, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Johnny, on connaît une chanson qui nous relie les uns aux autres. Voilà, ça c'est vraiment les deux formes que j'aimerais savoir écrire.
Vous y employez aussi, je reste sur les gens ne se rendent pas compte, vous y employez aussi régulièrement l'énumération. Est-ce pour une question de rythme ou peut-être pour mieux cerner les choses?
J'ai pas forcément fait attention à ça, mais c'est intéressant. Bah, c'est peut-être parce que assez souvent je fais des états des lieux, ou peut-être j'énumère des choses, des perceptions. Il faudrait que je relise mes textes, hein. En fait. Je les ai pas lus, je les ai écrits. C'est une grande différence, en fait. Quand on écrit, on ne lit pas forcément la même chose que ce que lisent les lecteurs. C'est intéressant.
Que fait cet homme avec cette femme qui le maltraite du regard dans le deuxième wagon de la ligne 14 du métropolitain? Le rictus de la femme était-il déjà visible au moment du oui devant le maire de la bourgade? Quelqu'un l'a-t-il perçu? Quelqu'un aurait-il pu prévenir l'homme alors? Car une grimace comme celle-ci n'apparaît pas en un jour sur le visage. Elle s'installe en amont de la fixation, se cherche, se demande durant de longues années si elle va se crisper sur sa droite ou sur sa gauche. Tel le termite qui ronge son bois de l'intérieur, grignote la poutre consciencieusement jour après jour, seconde après seconde, et fait œuvre de destruction à l'insu de tous jusqu'à l'effondrement dans la structure, le rictus a dû lui aussi préparer son surgissement spectaculaire pour être enfin là, visible, ostensible, manifeste un matin de mai dans le deuxième wagon de la ligne 14 du métropolitain, fixant l'homme qui regarde ailleurs. Qui sait comment ces choses arrivent? Qui sait combien de temps on peut rester marié à un rictus?
Page 44, vous employez l'expression « crapulerie lyrique », vous manquant de l'emploi de certains mots comme « âme » ou « éternité ». Pouvez-vous expliquer votre méfiance pour ces mots, et pour certaines écritures peut-être ?
Crapulerie lyrique, c'est ça que j'ai écrit. Et j'en reparle d'ailleurs dans Pas d'équerre, parce que ça, je crois que c'est dans Les gens ne se rendent pas compte, hein. Oui, j'écris un texte où je me moque un peu de ces grands mots. Alors, ces grands mots, je ne m'en moque pas, en fait, fondamentalement. Mais souvent, ils sont employés un peu par-dessus la jambe, mais comme beaucoup de mots. Mais pour moi, les mots sont importants, donc si on commence à les mettre un peu comme ça, parce que il faut mettre ça dans une poésie lyrique, mettre le mot âme ou éternité, sinon ça fait pas poétique, ça me fait un peu sourire. Et moi, ce qui me fait sourire, en fait, quand j'écris ça, c'est parfois ce que je ressens, je ne sais pas si c'est vrai, mais que je ressens comme des impostures poétiques de certaines personnes qui posent un peu avec certains mots pour faire poétique. Mais ça, c'est vraiment un ressenti dans l'instant, parce que une autre personne peut employer le mot âme ou éternité et ça arrive jusqu'à moi et je me dis c'est authentique. Et puis d'autres fois, ça n'arrive pas jusqu'à moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'imposture. Bon, donc c'est... Oui, ce qui me gêne, c'est quand j'ai l'impression aussi qu'on utilise la souffrance du monde ou la souffrance des autres pour écrire sa poésie. Alors parfois, encore une fois, je pense que les gens peuvent être intègres. Mais à d'autres moments, je me sens un peu mal à l'aise, hein, quand je lis une certaine poésie. Et c'est pour ça que dans Pas d'équerre, à la fin de Pas d'équerre, je dis qu'en fait, avec l'expérience de mes élèves, ce qu'ils me narrent sur leur trajet de migrants dans la Méditerranée, ce qu'ils ont vu, ou les souffrances qu'ils ont subies au cours de leur voyage, je pourrais faire un bon recueil pathétique sur leur douleur, etc. Et que je le ferai pas. Et je préfère les faire écrire, en fait, mes élèves, hein, sur leur propre souffrance et leur trajet, plutôt que de moi prendre leur voix et de dire, voilà, puisqu'ils ne savent pas parler, ils ne peuvent pas parler, je vais le faire à leur place. Ça peut être légitime, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas de... Mais quand ça devient... Quand ça devient un créneau, quand ça devient quelque chose qu'on utilise systématiquement, ça me gêne. Et voilà, je pense que si des gens sont en souffrance et ont envie d'écrire ça, bah, qu'il faut les aider à le faire.
Et vous parliez d'auteurs pour lesquels vous aviez un sentiment d'imposture. Est-ce que, éventuellement, vous auriez des exemples en tête ?
Non, je vais pas citer de. En fait, je vais pas citer de gens.
Ils peuvent être morts, hein.
Oui, non, mais ils sont pas morts, donc non.
Et inversement, quels sont les textes qui arrivent jusqu'à vous ?
Voilà, plein. Et plein de formes différentes, en fait. Hein. Je parlais de formes courtes, que j'apprécie, mais mon texte préféré, mon texte de chevet, c'est Alexis Zorba. De Kazantzakis, c'est un pavé, enfin c'est un gros bouquin. J'adore La Nouvelle Héloïse de Rousseau, et j'aime Proust, j'aime aussi Sandrart. Vraiment, j'adore aussi les textes fleuves, la poésie narrative de Brötigam ou de Bukowski, Ellisom, enfin, je me souviens jamais. C'est les textes qu'elle a écrits. Sur son expérience pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de mourir en camp de concentration. Cette dignité-là, voilà, ça me plaît. Hein. Mais voilà, en fait, il y a plein de textes de genres complètement différents qui arrivent jusqu'à moi.
Récemment, sur Facebook, vous avez mis en ligne une citation de Robert Pinget. Son oreille est si gourmande de vrai langage qu'il donnerait sans hésiter la palme à n'importe quel artisan parlant de son travail plutôt qu'à un littéraire fignolant son discours. Est-ce une phrase dans laquelle vous vous reconnaissez ? Et si oui, pourquoi ?
Oui. j'aime bien les artisans. Alors en fait, là, je suis allée vers Robert Pinget. J'ai acheté un livre qui s'appelle Monsieur Songe, parce que mon nouvel éditeur, qui est Jean-Michel Martinez Esnalois, et les éditions Louise Botu, en fait, Louise Botu, c'est le nom d'un personnage, enfin, silhouette secondaire dans le livre Monsieur Songe. Et je me suis dit, bah, quand même, j'ai pas lu ce bouquin, il faut que je lise de Robert Pinget. Donc, je l'ai lu, et dans ce livre-là, j'ai repéré cette phrase qui m'a beaucoup plu. Et ben oui, moi je travaille dans le bâtiment, donc j'adore que quand un artisan, quand mes collègues professeurs de maçonnerie, de menuiserie me parlent de leur métier, de leur artisanat, de leur travail, ça me plaît, et je n'aime pas les discours pontifiants, universitaires, ça m'ennuie. Donc moi je me suis bien retrouvée dans cette phrase, tout à fait.
Retravaillez-vous beaucoup ou privilégiez-vous une écriture brute ?
Ça dépend vraiment des textes sur lesquels je travaille. Parce qu'il y a des textes qui viennent instantanément, mais quand on dit instantanément, en fait, c'est des textes souvent qui viennent de loin. C'est des textes qu'on écrit d'un jet comme ça. Ça arrive, hein. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà écrits bien au-delà, bien avant, en fait, bien en amont. Et ils arrivent, on a l'impression, comme ça. Et on n'y touche pas, et à la virgule près, ça tient. Bon, ça arrive, c'est un mystère. Et puis, parfois, en effet, je pense qu'il faut laisser reposer. Si on est trop impatient, on a tendance à, voilà, par exemple, à mettre sur Facebook tout et n'importe quoi, à poster. Et ça, c'est bien, enfin, parce que ça fait des petites parenthèses sympas pour les gens. Voilà, c'est une forme qui peut être intéressante aussi, mais parfois, je mets sur mon blog, sous forme de brouillon, et puis je relis plus tard, je laisse reposer 3 semaines, 1 mois, et je reviens sur le texte, je vois tous ces défauts qui apparaissent tout de suite, parce que j'ai laissé reposer un peu, et à ce moment-là, je peux réécrire.
Et comment dire ? Quels défauts retrouvez-vous le plus souvent dans vos textes ?
Je sais pas, alors je dirais peut-être qu'au départ j'avais un défaut, c'était peut-être de trop commenter. Ce que j'essaye de plus en plus, c'est d'avoir une écriture, c'est une apparence de neutralité, mais ce n'est jamais neutre évidemment, mais sans commentaire surajouté. C'est vraiment montrer et non pas expliquer ce que je veux montrer. Et dans le texte court, j'avais tendance parfois à ajouter juste la petite phrase de trop qui alourdissait l'ensemble du texte. Et si on enlevait cette phrase, c'était beaucoup plus puissant.
Farah me tend son cahier de brouillon ouvert. Elle a écrit « Journal intime » en haut de la page de droite. Je lui demande si c'est vraiment intime, mais elle me dit qu'elle ne savait pas comment présenter son texte, alors elle a écrit ça comme ça. Elle est timide, discrète, toujours souriante. Elle a 16 ans, vient du Soudan, vit en France depuis 2 ans. Sa maîtrise du français est encore approximative et pourtant, je découvre un texte comme je n'en ai pas lu depuis longtemps. Je ne parle pas de textes découverts en classe, écrits par d'autres élèves, non. Je parle de littérature en général. Elle utilise des mots simples, ceux qu'elle connaît en français, des tournures syntaxiques bancales, peu de ponctuation, mais son regard est celui d'une auteure, d'une poète. Je le sais dès la deuxième ligne. Pas de posture, pas de chichi, pas de pause dans le verbe. Elle n'imite pas, elle n'essaye pas d'impressionner, elle est là. Sa façon d'être en connexion avec ceux qui ne la voient pas, la façon dont elle écrit, le tremblement des lèvres de son voisin de café, le regard qu'elle pose sur les solitudes alentour qui rejoignent la sienne sans le savoir, me ramène à des écrivains de Sylvia Plath ou de Brotigan. Regard juste, clairvoyant et lucide. Vous pouvez corriger mes fautes d'orthographe ?
Les gens ne se rendent pas compte, est un livre essentiellement découpé en paragraphes. La dernière des Claudettes est morte, ou encore votre dernier ouvrage, Pas d'équerre, me paraissent plus fragmentaires. Comment décidez-vous de la mise en page de vos textes ?
Bah en fait, oui, moi j'aime bien le fragment, et le fragment tout seul, bah, il reste que fragment, et en fait, la constitution d'un recueil, c'est organique. C'est encore un recueil, donc si on n'a que des fragments, c'est comme si on n'avait que des parties de membres, d'organes, d'un corps humain qui se baladent comme ça tout seul, c'est pas très sexy. Ça fait corps, ça devient vraiment organique quand il y a un recueil. Donc après, là, vous me parlez de la mise en page, ça c'est un peu différent, ça se travaille avec, ça se questionne avec l'éditeur, mais pour la constitution même du recueil... Là, vraiment, il y a... Enfin, pour Pas d'équerre, par exemple, le dernier recueil, j'ai une structure qui m'est venue à l'esprit assez rapidement et je l'ai construit en 3 parties qui correspondent à 3 trimestres de l'année scolaire, avec un temps plus long derrière qui sont les 20 années d'enseignement et puis 3 voix qui s'alternent, du professeur, des élèves et des textes institutionnels. Et voilà, ça crée un corps final que j'ai conçu. Donc il y a une vraie création après la création même des textes, qui est une nouvelle création, comme quand on monte un film en fait. Hein, on peut tourner des scènes, la dernière scène du film, enfin la première scène du film, on peut la tourner en dernier et vice-versa. Et c'est le montage qui va faire l'objet final, parce que les scènes filmées chacune de leur côté, ça fait pas un film. Donc, un recueil, ça se conçoit comme ça aussi. Et puis après, la mise en page, on peut décider, en effet, que les textes aient une certaine mise en page. Ça se décide à deux avec l'éditeur, ou parfois des auteurs, je pense, ont une idée très précise au départ de ce qu'ils veulent.
Pour votre part, est-ce que l'idée du recueil apparaît a priori, c'est-à-dire dès le début de l'écriture des textes, ou a posteriori ?
A posteriori, pour moi.
Et comment... Par exemple, pour vos 3 recueils, quel a été votre fil conducteur pour garder, conserver ou, au contraire, écarter des textes ?
Ah, par exemple, alors pour les 2 premiers, Le jour où la dernière Claudette était morte et Les gens ne se rendent pas compte, qui ont été publiés aux éditions Le Clojou, au départ, justement, pour Le jour où la dernière Claudette était morte, j'avais mis trop de textes. En fait, j'avais 200 textes et... Je pensais qu'il y avait un recueil, en fait, il y en avait déjà 2. Pratiquement, j'ai construit ensemble les deux recueils, le jour où la dernière Claudette était morte, et les gens ne se rendent pas compte, et j'ai fait vraiment deux choses différentes. Donc un texte beaucoup plus autobiographique, et un autre un peu différent, je ne sais pas comment le qualifier. Et pour pas d'équerre, j'avais ce dossier-là avec des textes écrits depuis une dizaine d'années sur mon expérience professionnelle, et j'en ai écarté quelques-uns, et j'en ai ajouté beaucoup aussi, en fait. J'ai écrit à partir de textes que j'avais déjà, j'en ai écrit une cinquantaine de plus pour constituer ce recueil. Donc ça dépend vraiment des recueils.
Pour pas d'équerre, vous avez donc des textes qui certains ont 10 ans, et donc que vous avez accumulés, mais vous avez aussi parlé d'une cinquantaine de textes que vous avez écrits peu avant la publication du livre. Alors, comment avez-vous écrit ces 50 textes? Est-ce qu'ils sont venus d'un coup? Est-ce qu'ils sont tirés, malgré tout, d'expériences réelles? Est-ce qu'on peut revenir sur cette élaboration de 50 textes qui sont venus s'ajouter aux autres textes qui les avaient précédés?
Alors, ce sont que des textes tirés d'expériences réelles. En fait, la construction de Pas d'équerre, c'est que j'étais en galère avec le roman que j'étais en train d'écrire. En fait, ça bloquait. Je n'y arrivais plus et je sentais qu'il fallait que je fasse une pause et voilà, que je laisse reposer. Et j'avais ce dossier-là, en fait, qui était là sur mon bureau depuis un moment, sur l'école. Et puis là, il y a eu la réforme de plus du lycée professionnel qui arrivait à ce moment-là. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire maintenant, après ce sera trop tard. Lycée professionnel, je pense qu'il est vraiment en train de mourir. Donc, j'ai envie de parler de cette expérience-là maintenant. Donc, j'ai laissé de côté l'écriture du roman et je me suis mise vraiment à fond sur ce recueil qui est né très très vite, en fait. C'est-à-dire que j'avais des textes, j'en ai gardé, j'en ai écarté, et en quelques mois, ce recueil a été fait, mais en fait, ce recueil, il existe depuis plus de 10 ans, finalement. Parfois, on écrit très très vite quelque chose, parce qu'il est là depuis très très longtemps.
Et donc oui, pour rappeler, vous venez de publier aux éditions Louise Botu, Pas d'équerre, sur votre vie d'enseignante dans un lycée des métiers du bâtiment. Est-ce que... vous pouvez, alors, vous n'avez pas parlé de la genèse, mais que vous pouvez revenir plus longuement sur l'ambition de ce texte et préciser pourquoi vous l'avez écrit maintenant.
Alors, c'est un recueil qui est dédié aux élèves du lycée professionnel, donc à mes élèves. Moi, j'enseigne le français, l'histoire et la géographie et le MC en lycée professionnel. Et en fait, des réformes, selon moi, sont venues saboter le travail que l'on mène, nous tous en lycée professionnel, en enlevant des heures, par exemple, de littérature. On passe de 4h30 hebdomadaires à 2h30 de français, histoire, géographie. Donc ça, ce délitement, ce manque d'ambition pour ces élèves-là, moi, ça me fend le cœur. Et je voulais le dire et je voulais leur rendre hommage aussi et montrer qu'à l'intérieur du chaos, du délitement, il y a des interstices dans lesquelles passe la lumière, et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand on peut plus rien faire, au moins être là et donner ça. Et je voulais que leurs textes apparaissent, parce que on fait rarement écrire les élèves, finalement. Enfin, il y a beaucoup d'ateliers d'écriture, mais il s'agit pas de faire des ateliers d'écriture pour faire des ateliers d'écriture, mais c'est que les élèves se rendent compte qu'il y a une voix en eux qui peut émerger par l'écriture, qui est pas là forcément au quotidien, où ils ne le savent pas, mais parfois il y a des fulgurances incroyables, en fait, quand des élèves se mettent à écrire, et qui sentent ce mystère-là en eux, qui peut jaillir. Il y a un truc de dignité, en fait, qui émerge dans ces ateliers, et quand ça devient un objet livre, parce que moi j'aime bien quand à la fin ils repartent avec un livre à la main, parfois ils le disent en public aussi, ça on l'a fait aussi. Voilà, tout ça, ça va dans le même sens.
En ce sens, c'est pas un livre avec un slogan, mais c'est un livre politique.
Oui, moi je pense que c'est un livre politique, alors je me méfie aussi du mot politique, mais en fait tout est politique pour moi de toute façon, à partir du moment où on se met à écrire, ou même, enfin, c'est notre vie dans la société en fait, la politique, hein, c'est notre place. Donc oui, par rapport aux gens ne se rendent pas compte, ou à le jour où la dernière Claudette est morte, je peux dire que c'est un recueil politique, mais pas militant, bourrin. Enfin, je sais pas comment dire. Il peut y avoir une forme de militantisme un peu appuyé, et ça, je n'aime pas, en fait, les textes didactiques qui énoncent les choses de manière trop directive. Ou... Enfin, moi, j'ai en tête, en fait, hein, je sais pas si vous voyez conversation entre Georges Brassens et Ferrat, que j'adore. J'adore ces deux chanteurs. Quand j'étais petite, j'écoutais Ferrat, j'écoutais Georges Brassens. On avait les deux à la maison et je les aimais beaucoup tous les deux. Mais dans cette interview, je rejoins Brassens, en fait. Et Ferrat, bah voilà, il a un communisme forcené. Et dans ses chansons, ça se sent. Il est très militant et c'est touchant. Mais je préfère le positionnement de Brassens, en fait, qui paraît plus à distance, mais en fait, qui dit des choses aussi fortes, mais qui ne se donne pas une intention directement politique. En fait, moi, ce que j'aime, ce sont les œuvres où il y a de la politique en oblique, mais pas directe.
Chers élèves, la subversion, aujourd'hui, ne peut passer que par l'aspiration à l'élégance. Dans une société où la vulgarité et l'indignité foisonnent, quelle meilleure réponse que la finesse du propos et la souplesse de la pensée? Et d'abord, fi des concours d'éloquence dont on nous rebat les oreilles et qui ne consistent le plus souvent qu'à récompenser les cadors du blabla en public. Fi des débats qui ne consistent le plus souvent qu'à annonner des arguments pour ou contre dans le but d'aboutir à une conclusion flattant la bien-pensance du professeur et de l'institution. Oui, la rébellion, chers élèves, passera chez nous par la quête de l'élégance, de la sprezzatura, du raffinement et de la courtoisie, par la recherche du mot juste, de la tournure syntaxique racée et de la pensée subtile. Devenez les Marcello Mastroianni de ce lycée professionnel. Déambulez dans les couloirs avec panache et désinvolture. Souriez aux jaloux. Préparez-vous aux embuscades. Répondez en dandy. Ça plaira aux filles? Seulement à certaines. Mais vous n'avez pas envie de plaire à n'importe qui, Brahim.
Justement, dans Les gens ne se rendent pas compte, vous parlez de sprezzatura. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion, nous dire si elle est importante pour vous, comment elle se manifeste, par exemple, dans votre écriture?
Ah, sprezzatura, c'est beau. Et en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est difficile de le traduire en français. On peut parler de désinvolture, de nonchalance, de... Moi, j'ai choisi de l'interpréter comme, de le traduire comme un mine de rien. Moi, j'aime beaucoup le mine de rien, en fait. C'est-à-dire faire passer des choses très profondes, voire politiques, mais avec élégance et avec une certaine distinction et puis une précision. Et en même temps, on a l'impression que la forme est évidente, c'est facile. Alors qu'il y a un vrai travail derrière. Dubélé explique très bien ça aussi, montre très bien ça dans son recueil Les Regrets.
Qu'est-ce que l'élégance pour vous dans un texte littéraire? Vous avez un peu commencé à répondre à ça, c'est-à-dire un texte où l'art ne se voit pas. Est-ce que, là encore, ça revient à cette idée de vrai langage, avec une puissance par la vérité du mot, par la justesse du mot?
Oui, il y a sans doute ça. Il y a aussi la puissance syntaxique. Enfin, faut trouver aussi la forme grammaticale la plus juste. Ça peut être la ponctuation aussi, puisque votre émission s'intitule.
Je tiens absolument à cette virgule.
Voilà. Moi, j'aime bien le point virgule, par exemple. Rousseau l'utilise beaucoup au XVIIIe siècle. Comme ça, ça permet d'enlever des conjonctions de subordination un peu lourdes et de mettre juste le point-virgule et de laisser le lien logique s'inscrire dans l'esprit du lecteur. De temps en temps, je l'utilise dans mes textes très très courts, hein, pour évacuer la lourdeur des liens logiques.
Quels auteurs vous inspirent et sur quels aspects de votre écriture?
J'ai en moi plein d'auteurs, plein de littérature, donc forcément... Je pense que ça m'influence, mais sans que je le sache vraiment, je ne vais pas écrire à la manière d'eux. Il y a plein d'auteurs qui m'inspirent, et j'adorais, et ça j'en suis incapable, m'écrire comme un Sandrart. Pour moi, c'est impossible. Et donc, il ne m'inspire pas directement, mais je trouve ça tellement génial, en fait, ces digressions, la note sur la note sur la note, quand on lit ces carnets, c'est génial. C'est vraiment une écriture qui n'est pas du tout la mienne, mais qui m'inspire quand même. Et puis, selon ce que j'ai à écrire, un roman, un texte court, une nouvelle, je pense qu'il y a différentes influences qui arrivent en moi, voilà, qui sont là. J'adore Michaud. Peut-être que, voilà... Michaud, ouais, peut-être qu'à certains moments, j'ai essayé... C'est pas de l'imitation, mais c'est de dire, tiens, j'aimerais bien réussir à faire ça, et de... De toute façon, quand on écrit, il faut lire, hein. Pas de mystère, moi, c'est ce que je dis aussi à mes élèves, c'est pour ça qu'avec Patrick Lopin, quand on les faisait travailler en écriture, d'abord, on leur disait plein de choses, hein, pour qu'ils entendent des textes, des musiques différentes, et puis, je pense pas qu'on puisse écrire sans lire.
Vous avez publié vos premiers ouvrages dans une maison d'édition, une petite maison d'édition qui s'appelle Le Clos-Jouve. Vous venez de publier votre dernier livre, Pas d'équerre, chez Louise Botu. Donc, vous avez publié chez deux petits éditeurs. Est-ce que, pour vous, ce qu'on appelle les petits des éditeurs jouent un rôle important aujourd'hui dans la création littéraire et dans le paysage de la littérature contemporaine ?
Il joue un rôle indispensable parce que ce qu'on appelle petits éditeurs, vous êtes d'accord pour mettre ce terme-là entre guillemets, hein, ce sont de grands éditeurs. En fait, ce sont des gens passionnés de littérature qui vont défendre vraiment des objets littéraires qui ne seront peut-être pas défendus par les grandes maisons d'édition. Peut-être qu'ils sont contraints par des paramètres qui sont les leurs. Et on est en relation beaucoup plus intime avec des petits éditeurs parce que ces personnes-là défendent leurs auteurs, vont dans les festivals, vont dans les salons, apportent les livres. Enfin, donc je remercie vraiment Philippe Bouvier, Frédéric Houdard, Alain Chassagneau de Sous le sceau du tabellion aussi, puisque j'étais aussi publié chez lui pour les nouvelles écrites à quatre mains avec Frédéric Houdard, et Jean-Michel Martinez et Snaloa de Louise Botu, qui est un super éditeur. Là vraiment, je suis très très heureuse d'avoir rencontré cette personne. Voilà, je tenais à le dire aussi parce que c'est important, et c'est eux qui permettent à des auteurs de voir le jour, d'être lus.
Venez d'écouter Je tiens absolument à cette virgule, présenté par moi-même, Hervé Veil, avec pour invité Judith Viard.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si
merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.